livre que nous avons omis jusqu'ici, peut-être parce qu'il est difficile. C'est le livre de Jérémie. C'est un personnage très attachant, Jérémie. N'empêche que et son hébreu est difficile. Nous avons fait l'expérience encore cette année avec un groupe d'étudiants progressants. Et ils se rendent bien compte que c'est un bel hébreu, mais qui n'est pas tellement facile à percevoir. Et il y a plusieurs difficultés à ce livre. D'abord, la langue. Deuxièmement, la manière dont le texte est ou n'est pas composé. La plupart du temps, les livres des prophètes, comme prenez Isaïe par exemple, ou bien Ézéchiel, ont été retravaillés par la suite, et on en a fait une édition qui est tout à fait cohérente. Tandis que le livre de Jérémie a eu au moins trois éditions. Une assez rapidement, semble-t-il, pendant l'exil, et une autre par après l'exil, mais une autre, il y a eu deux versions. Une version plus longue, celle que nous avons encore dans l'édition hébraïque, et puis une plus courte que nous trouvons dans l'édition grecque. Donc quand on a, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, quand on a traduit de l'hébreu en grec, eh bien, on avait sous les yeux une autre version. Et donc, il y a eu des éditions différentes, au moins trois éditions, et puis tout cela a été revu par des correcteurs et donné dans la tradition hébraïque telle que vous l'avez dans la plupart de vos éditions et dans la tradition grecque avec des changements dans l'ordre des chapitres. Si bien que souvent dans vos éditions vous avez deux chiffres comme dans les psaumes. Il y en a une qui est en décalage par rapport à l'autre. Donc c'est l'explication de cela. Ça dépend donc des éditions. Donc, livre difficile pour la langue, livre difficile parce que l'ordre n'est pas celui que nous aimerions avoir. En tout cas, les oracles ne sont pas mis en ordre chronologique. Donc c'est mis un peu plic-ploc, comme cela. Et, en troisième lieu, difficile parce que cet homme a parlé dans une situation très difficile. Une situation où on ne savait pas très bien à quel saint se vouer et quels étaient les repères. Et en ce sens, ce livre est assez moderne. D'abord parce que nous-mêmes, souvent, nous avons perdu certains repères. La société dans laquelle nous vivons, ou l'Église dans laquelle nous vivons, ont aussi perdu un certain nombre de repères, et cela nous interpelle d'une manière particulière. Eh bien, c'est un peu dans ce sens-là que Jérémie était interpellé par la situation concrète. Vous savez, quand on voit un prophète, je dis toujours cela, que les prophètes sont toujours situés à une époque déterminée. Et si on ne se rend pas compte de ce qu'il vivait à l'époque, il n'y a pas moyen de savoir pourquoi il va parler de telle ou telle manière. Et sur le plan politique et sur le plan social, il y a des divergences très grandes entre les prophètes. Ils n'ont pas tous la même idée politique et ils n'ont pas tous la même théologie. Donc ils sont très fort fonction de la situation historique. Donc il nous faudra bien faire allusion à cette situation historique qui est en elle-même compliquée, beaucoup plus chez Jérémie que chez Isaïe, par exemple, ou même chez Ézéchiel. Il se trouve à un moment très difficile, très crucial. Alors, j'ai entendu dire que l'une ou l'autre de la session avait essayé d'entamer la lecture de ce livre et elles ont été déçues. Et il y a moyen d'être déçu, justement, à cause de ce que je viens de vous dire. On ne sait pas très bien où on en est. effectivement, on voit bien que les oracles ont été mis bout à bout pour favoriser la mémoire. Un oracle se termine par un mot et on prend un oracle suivant qui commence par le mot, c'est ce qu'on appelle des mots crochets. Et comme cela, quand on les récite par cœur, on les récite de mémoire, ces mots font fonction de signe, nous permettent d'embrayer. D'ailleurs, en linguistique, on parle justement d'embrayeur. Un mot qui permet d'embrayer sur un autre oracle qui traitait plus ou moins du même sujet. Je crois que c'est assez pour vous mettre en appétit, si vous le voulez bien, comme légère introduction. Je crois que le reste, nous allons pouvoir le préciser au fur et à mesure du texte. Je prends, même si je ne lis pas tout exactement de la même manière, de temps en temps je résume certains passages, parce que ça nous fait quand même 52 chapitres, hein. C'est un gros morceau, c'est pratiquement avec Isaïe le plus long prophète de l'Ancien Testament. Eh bien, nous allons essayer d'en faire une lecture continue pour essayer d'entrer dans cette situation dans laquelle nous vivons souvent, une situation hésitante où tout n'est pas clair, ni dehors, ni dedans. Lorsque j'ai donné cette année le cours sur les prophètes d'Israël, j'ai situé chaque fois ces prophètes dans leur histoire. On ne peut pas faire tout, reprendre tout maintenant, mais il faut quand même situer un petit peu l'histoire de Jérémie. Et quand j'arrive au moment de Jérémie, c'est-à-dire les prophètes juste avant l'exil, eh bien, j'ai besoin de plusieurs cartes pour montrer ce qui se passe sur le lieu même et le tableau chronologique pour voir ce qui se passe précisément dans la chronologie. Comme vous le savez probablement, la situation d'Israël est médiane entre le nord et le sud. Le nord, c'est la Mésopotamie, et le sud, c'est l'Égypte. Et il y a des conflits d'influence depuis déjà des centaines d'années. Nous sommes ici aux environs de 650, au 7e et au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et à ce moment, on est vraiment dans des conflits. Qui va avoir le dessus? Qui va dominer le Moyen-Orient? La question n'a pas changé aujourd'hui. Qui domine le Moyen-Orient? Qui va être le maître de toutes ces richesses? Et pour pouvoir être le maître de toutes ces richesses, il faut en premier lieu, et c'est encore vrai aujourd'hui, de l'eau. Sans eau, pas moyen de vivre. Et aujourd'hui encore, la véritable question qu'il y a derrière tous les conflits du Moyen-Orient, c'est l'eau et l'or noir. L'or noir, la richesse, et l'eau, de quoi subsister. Et ça a toujours été comme ça. Et donc, Égypte dans le sud, Mésopotamie dans le nord. Mésopotamie, nous avons eu les Hittites avant cela, le grand empire des Hittites. Puis ça a été la Syrie, les Assyriens, qui avaient comme capitale Ninive. Et le prophète Nahum a toute une belle page sur la chute de Ninive. Et lorsque je donnais le cours, j'ai lu en même temps la chute de Ninive dans le prophète Nahum et la chute de Nasria, un peu plus au sud, en Irak, dans la guerre d'Irak, c'était justement le moment de la guerre d'Irak, la chute de Nasria au sud de Bagdad. Et vous retrouviez les mêmes thèmes. Les mêmes thèmes et même les mêmes termes.
Et la chute de Babylone dans l'Apocalypse.
C'est encore différent. La chute de Babylone dans l'Apocalypse est reprise davantage de Isaïe et d'Ézéchiel. Mais ce sont les mêmes poncifs qui reviennent. Hein, ce sont les mêmes idées, les mêmes thèmes. Hein, on raconte les chutes de ville à peu près de la même façon, toujours. Mais Babylone a été prise sans coup férir. Comme cette année, la guerre d'Irak, un peu comme Ninive, a été prise sans coup férir. Mossoul, c'est-à-dire. Hein. Ninive, c'est Mossoul, et Babylone, c'est Bagdad. Et donc, il y a toujours le conflit entre ces deux grandes puissances. Alors, vous savez que les Assyriens étaient arrivés au 8e siècle et voulaient se répandre vers le sud. Ils avaient déjà pris la Syrie, Moab, Ammon, et avaient des vues sur la Samarie. Et c'est ainsi que la Samarie est tombée, sous Sargon II, en 721 avant Jésus-Christ. On se rapproche petit à petit. 721, chute du royaume du Nord. Un peu après, et vous savez qu'à ce moment-là, il y a eu, quand nous avons vu Isaïe, hein, nous savions qu'il y avait eu un complot pour faire pièce contre la Syrie. Mais il s'est passé aussi une révolte à l'intérieur de cette Mésopotamie, et c'est que la Syrie déclinant quelque peu, un autre roi, le roi de Babylone, d'abord Nabopolassar, qui est monté en puissance et qui a précisément pris la ville de Ninive. Et si bien que les dynasties assyriennes ont été remplacées par les dynasties babyloniennes, dont le grand a été Nabucodonosor. Et si Sargon II, Salmanazar V, puis Sargon II, avait pris en 721 la Samarie, il revint à Nabucodonosor de prendre, hein, en 589, de prendre Jérusalem. Les deux royaumes, royaume du Nord, Samarie, royaume du Sud, Juda. Donc nous nous trouvons à l'intérieur de luttes, de conflits, de pouvoir. Qui va prendre quoi? Qui va avoir l'influence? Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous trouvez dans le Moyen-Orient, vous trouvez la même chose, avec un étranger, c'est-à-dire l'Amérique, et un autre étranger, l'Europe. Quels sont les intérêts de l'Amérique et de l'Europe dans le Moyen-Orient, le Proche et le Moyen-Orient? C'est un territoire qui a toujours été un territoire de conflit d'influence. Influence à cause des richesses qu'il recèle. Alors, voilà un homme, un prophète. Les prophètes sont chaque fois saisis par Dieu à un moment déterminé pour dire une parole précise à un moment déterminé. Par exemple, Isaïe, le grand Isaïe, prêchait la neutralité absolue. C'était la Suisse de l'époque. Neutralité absolue. On n'entre pas dans les conflits. Donc, il refusait absolument d'entrer dans la mouvance assyrienne, ou puis babylonienne, à ce moment-là c'était encore les Assyriens, ou d'entrer dans la mouvance égyptienne. Donc ils restaient à l'extérieur des conflits. On se fie à Dieu seul. Et puisque Dieu réside à Jérusalem, dans son temple, eh bien, Jérusalem sera immunisée contre toute attaque, puisque le temple de Jérusalem, c'est la demeure de Dieu. Très bien. En 701, Sennachérib arrive, fait le siège de Jérusalem, et puis, comme par enchantement, en une nuit, le voilà parti. Et, dans la Bible, on ne vous dit pas pourquoi, mais évidemment, les savants ont fait toutes sortes de conjectures, on a écrit beaucoup de bouquins sur la question, les uns pensant qu'il y avait eu une épidémie, les rats étaient venus dans le camp, et ils s'étaient sauvés, ou bien la peste. D'autres disent, non, il a été rappelé à Babylone, en Assyrie, à Ninive, il a été rappelé parce qu'il y avait des problèmes de cours à ce moment-là. Probablement, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que le roi de Jérusalem, Achaz, puis Ézéchias, avait donné de l'argent et devenait tributaire, devenait les vassaux de l'Assyrie. c'est ce qu'on comprend plutôt maintenant. Mais en tout cas, le fait que le siège n'avait pas continué avait été considéré comme un signe providentiel. Vous voyez bien, Jérusalem ne tombera jamais, puisque c'est la demeure de Dieu. Maintenant, la situation a changé. Ce ne sont plus les Assyriens, mais les Babyloniens, et les Babyloniens sont plus forts. Et spécialement Nabucodonosor est un général en chef remarquable. Alors, de l'autre côté, en Égypte, vous avez aussi une armée qui est assez forte, et celui qui est le roi, le pharaon d'Égypte, c'est Nekao II. Et entre la Syrie, entre la Babylonie et l'Égypte, il y a de nouveau des tentatives de prendre tout ce qui sépare l'un de l'autre. Les Égyptiens ont déjà établi des colonnes, des cinquièmes colonnes, un peu partout, et notamment dans le territoire d'Israël. Et ils ont quelques places fortes, dont la citadelle de Megiddo, par exemple. Il se trouve au milieu du pays. Mais aussi d'autres, Gezer, près de Jérusalem, Megiddo, sont déjà des places fortes tenues par les Égyptiens. Et puis de l'autre côté, il y a Nabucodonosor qui étend sa puissance jusqu'en Samarie. Donc il ne reste plus que le petit territoire de Juda. Et c'est peu de choses. C'est Jérusalem et puis c'est la campagne environnante. Il ne faut pas s'imaginer que ce sont des forces remarquables. Et comme armée, il n'y a quand même pas grand-chose. Donc c'est un petit royaume très fragile et qui jusqu'ici s'est fié vraiment en la présence du Seigneur à Jérusalem. En Juda, qui avons-nous? Je mettais ici un petit entrefilet que je peux vous lire. Nabopolassar, 625-605, vous voyez, on s'approche. Roi de Babylone, supplante la puissance de Ninive et fonde à Babylone une nouvelle dynastie appelée néo-babylonienne. Il attaque le royaume assyrien en déclin, aidé par le pharaon, à ce moment-là ils se mettent ensemble, le pharaon Psamétique I, premier, mais le siège de Ninive échoue. Quelques années plus tard, Syaxar, le roi des Mèdes, prend Ninive. Avec Nabopolassar, on se fait des amis pour pouvoir prendre une cité. Un renversement de puissance est en train de se préparer, les Mèdes sont en train de bouger par là, tandis que les Babyloniens vont se tourner vers l'Égypte. Nekao II, devenu roi d'Égypte, vient prêter main forte aux Assyriens. En Juda, et ceci est important pour nous maintenant, le roi Josias. Vous savez que dans le territoire de Juda, il y a deux rois qui ont eu vraiment de l'importance. C'est Ézéchias, le temps du premier Isaïe, et puis le roi Josias, dont nous parlons maintenant. Le roi Josias succède à son père Amon, dont le règne fut éphémère, seulement 2 ans. Monté sur le trône de Jérusalem en 640, Josias va régner jusqu'en 609. Et il est monté sur le trône à l'âge de 8 ans. Donc il fallait qu'il soit conseillé à ce moment. Il régnera jusqu'en 609. Et ici, c'est un point important. En voulant s'opposer à l'avance de Nekao, Nekao II, d'Égypte, qui montait et qui appuyait son influence, il est tué dans la bataille de Megiddo. Ce grand roi marquera profondément le peuple à cause de la réforme qu'il a faite. En effet, le roi Josias a fait une grande réforme religieuse. Et on situe à peu près cette réforme religieuse en 622 avant Jésus-Christ. C'est possible de retenir les dates, parce que 622 avant Jésus-Christ, réforme religieuse, c'est-à-dire unification du royaume, monothéisme strict. Jusque-là, il y avait un monothéisme mitigé à Jérusalem. Bon, Dieu était unique, on le savait, mais c'était l'unique Dieu des Juifs. On ne parle pas encore de Juifs à cette époque-là, des Israélites. Mais il y avait des temples concurrents de celui de Jérusalem, un peu partout dans le pays. Ils réforment un Dieu unique. Et tous les temples concurrents sont supprimés. Et d'ailleurs, on voit encore, on a brûlé ces temples à cette époque. On peut encore retrouver des traces archéologiques. Un seul temple, un seul Dieu. Et nous avons vu également, avec certains prophètes, comme Élie, comme Michée, comme Amos ou comme Osée, combien en Samarie, on était encore fort syncrétiste. Hein. On allait vers le Dieu qui plaisait. Bon, réforme. Oui, mais que vont devenir tous ces prêtres de tous ces sanctuaires? Un certain nombre se sont fait recycler à Jérusalem. D'autres, qu'est-ce qu'ils faisaient les prêtres dans les sanctuaires? Ils abattaient le bétail, ils faisaient les sacrifices. Donc ils avaient les qualités de boucher. Et ils sont devenus des bouchers, au lieu d'être des bouchers sacrés, ils sont devenus des bouchers profanes. Car autrefois, encore du temps de David et des premiers rois, on n'achetait sa viande qu'au sanctuaire. Et vous voyez, tout ce qui est en train de se passer dans la mentalité. Maintenant, on peut acheter sa viande, on ne veut pas.
Qu'est-ce qui fait aux machines
de
se fier à Dieu?
Voilà. Il ne faut se fier ni à l'un ni à l'autre. Simplement au livre. Non, mais vous voyez le problème. Hein? Donc, il y a, sur le plan social, il y a toute une transformation de la société qui se passe. Alors, les prêtres qui vont être recueillis à Jérusalem vont être des prêtres de seconde zone, parce que les bonnes places sont déjà prises. Et ça devient les Lévites, dans le temple de Jérusalem. Donc il y a toute une transformation de la société. Et ça met du trouble dans la société, des choses pareilles. Il faut changer ses manières de vivre. Mais alors, on ne sait pas s'il y a une véritable trouvaille d'un rouleau de la loi, probablement le Deutéronome, ou bien si ça a été présenté de cette manière-là, par le roi, qui voulait imposer sa réforme, en disant, on a retrouvé, quand on faisait des travaux dans le temple, on a retrouvé un rouleau, et on n'a pas été fidèle à la loi du Seigneur. Et on pense que c'était au moins, en bref, ce qu'on appelle le code deutéronomique, qui avait été fait par une assemblée constitutionnelle, qui faisait une constitution, comme aujourd'hui la constitution de l'Europe, faisait une nouvelle constitution, et on a voulu vraisemblablement, on a voulu aménager l'ancien droit pour le rendre actuel. C'est un petit peu cela, la réforme. Mais voilà. Donc ce grand roi marquera profondément le peuple à cause de la réforme qui eut lieu sous son règne. En fait, il était devenu roi à l'âge de 8 ans, son père ayant été assassiné. L'école des sages de la cour royale, appelée souvent dans la suite école deutéronomiste, entreprit de rétablir l'alliance et de remettre son observance en vigueur. Et cela à partir d'un document exhumé du temple à la faveur de travaux qui y avaient été entrepris. Bon, donc ce document peut être le noyau de ce que nous appelons le code deutéronomique, c'est-à-dire les chapitres 12 à 26 du Deutéronome. Nous avons vu ça en son temps. Alors, Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Josias, en voulant aller au secours de Nécao contre les armées du nord qui s'avançaient, est tué dans la bataille de Megiddo, prématurément. Alors, grosse question dans le peuple de Jérusalem, mais est-ce que cette réforme était bien d'une réforme voulue par Dieu? Puisque voilà maintenant le roi qui est tué prématurément. On n'attendait pas cela. Donc si sa réforme est coupée en quelque sorte, c'est la providence qui l'a voulu. Donc, questionnement au sujet de cette réforme de Josias. Donc déjà, vous voyez que Josias est un homme un peu controversé. Et d'ailleurs, ça a plané, et ça continue de planer dans toute la région de Megiddo, là, c'est-à-dire du sud de la Galilée. Et on se demande, mais est-ce que ce Megiddo n'est pas le signe d'une intervention divine? Parole de Jérémie, fils de Hilkiyahu, d'une famille sacerdotale établie à Anatote, tiens, en territoire de Benjamin. Donc Benjamin, c'est au nord du territoire de Juda. À lui furent adressées la parole du Seigneur au jour de Josias, alors voilà, fils d'Amon, mais qui avait été assassiné, et roi de Juda, la 13e année de son règne. Donc nous sommes à la 13e année du règne de Josias. Puis, au jour de Joachim, qui va lui succéder, fils de Josias et roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédéchias, fils de Josias et roi de Juda. Donc nous allons avoir, les uns derrière les autres, une suite de plusieurs rois, qui sont, plusieurs en tout cas, des fils ou frères de Josias. Donc on reste dans la famille, dans la dynastie, jusqu'à la déportation de Jérusalem qui arriva au 5e mois. Donc vous avez là quelques repères, mais on ne vous donne pas les dates. Mais on peut les situer dans l'histoire. Donc 13 ans sous Josias, et puis sous ses successeurs, que nous allons voir dans la suite. Voilà Jérémie, dont on nous dit une chose, c'est qu'il est d'une famille sacerdotale établie à Anatote. Anatote est à peu près une dizaine de kilomètres au nord de Jérusalem, dans une petite vallée. Qu'est-ce qu'elle faisait là, cette famille sacerdotale? Ah, c'était le reste d'une famille sacerdotale concurrente de celle de Jérusalem. C'était déjà des concurrents de Jérusalem. C'était les prêtres, on est prêtres de père en fils, mais c'est la descendance du prêtre Aviatar, dont on parle dans le livre des Rois. Aviatar. Et c'est une dynastie sacerdotale qui était dans un petit temple concurrent au nord de Jérusalem, mais qui avait comploté au moment de la mort de David. Bon, il y avait deux parties. Ceux qui voulaient mettre Salomon avec le prophète Nathan, étaient d'accord pour mettre Salomon sur le trône, mais Salomon n'était pas le premier fils de David, il y en avait des aînés, c'était le dernier. Et il y avait Adonias qui restait, qui était plus âgé. Et Aviatar, dans ce petit temple au nord de Jérusalem, avait été partisan d'Adonias. Aussi, quand Salomon est venu sur le trône, il a mis de côté toute la famille d'Aviatar. Il l'a banni de Jérusalem. Et donc, il a exiger que les prêtres de cette petite communauté-là ne soient pas recyclés dans le temple de Jérusalem. Et ceci est aussi important. Ça veut dire que cette caste sacerdotale d'Anatote était une caste qui se disait bannie, handicapée au départ, si vous voulez, à telle enseigne que l'on disait que les enfants d'Anatote ne vivent pas vieux. Ils meurent souvent à l'âge de l'adolescence. C'était comme si ce territoire et ces familles, cette dynastie sacerdotale, étaient maudites. Et nous retrouvons d'ailleurs cette idée, ce handicap que Jérémie porte difficilement d'être mis au rencard, marginalisé. On porte une tare. Et c'est difficile d'être libre quand on porte cette tare, dans des milieux où on dit que le malheur s'acharne sur telle ou telle famille. Et les enfants qui naissent là ont tout un handicap à dépasser. Handicap intérieur ou handicap extérieur, peu importe, ils ont quelque chose à dépasser. Et donc Jérémie est de ce milieu-là. Et lui-même, on voit bien qu'il fait de temps en temps des comparaisons entre Jérusalem, où Dieu réside, et le premier sanctuaire où Dieu a résidé, c'est-à-dire à Silo, ou Shiloh, mais qui se trouvait dans le royaume du Nord. Et là, nous avons encore une autre histoire. Vous avez probablement déjà lu, dans le livre de Samuel, l'histoire du petit Samuel, précisément. Et Samuel, qui avait été élevé au temple avec un prêtre qui s'appelait Élie. Pas Élie, ne confondez pas. Élie. Et Élie, donc c'était un prêtre âgé et qui a accepté le petit Samuel. Vous vous rappelez l'histoire de la vocation du Samuel, du petit Samuel. Qui es-tu, Seigneur? Tu m'as appelé. Et ce prêtre Élie avait deux garnements de fils qui s'amusaient lorsque les gens venaient offrir des sacrifices, qui s'amusaient à venir piquer les morceaux de viande et qui allaient les faire cuire dans leur cuisine. Et puis, quand ils sont devenus un peu plus grands, mais ils s'amusaient à faire enrager les filles qui venaient au temple lors du pèlerinage annuel. Si bien que cette famille-là aussi avait été maudite. Et il y a toute une lignée là de familles maudites, dont le petit Jérémie va hériter. Une sorte de malédiction qui s'acharne sur ce milieu. Milieu de mauvais prêtres, dirions-nous. Milieu de gens qui sont politiquement bannis. Et voilà, on vous dit simplement, en un verset, parole de Jérémie, fils de Kilkiahou, d'une famille sacerdotale établie à Anatote, en territoire de Benjamin.
Il n'y avait pas de lien entre Silo et Abiathar, non?
Il ne semble pas qu'il y ait eu de lien de parenté, de descendance. Mais il y a eu un lien, en tout cas, dans la mentalité des gens, sur le plan médiatique, dirions-nous aujourd'hui. En tout cas, Jérémie, il le voit comme ça. Parce qu'il cite bien Shiloh. Eh bien, Shiloh a été détruit. Shiloh a été détruit, pourquoi? Parce qu'il était mal géré. Eh bien, Jérusalem va être détruite comme l'a été Shiloh. Et ça, évidemment, c'était une grosse injure pour Jérusalem. Donc, voilà un petit peu ce milieu. Il faut un petit peu décrire ce milieu pour percevoir un peu la vocation de Jérémie. Nous reviendrons après sur les suivants. Mais il fallait d'abord situer Josias et il fallait situer la famille d'Anatote, la famille sacerdotale d'Anatote. Et avec ces quelques renseignements, nous pouvons commencer la première partie du livre de Jérémie. Au fond, dans le livre de Jérémie, vous avez trois grands blocs. D'abord, toutes sortes d'oracles, depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 24, toutes sortes d'oracles mis bout à bout, sans se soucier des années. Donc pas d'ordre chronologique. Et puis, à partir du chapitre 25e, il y a une introduction pour les oracles contre les nations, mais qui vont être rejetés à la fin du livre. Mais alors, on vous raconte toute la passion de Jérémie, c'est-à-dire toutes les souffrances qu'il a dû subir, entre le chapitre 25 et le chapitre 45, ce sont des passages biographiques. Ce ne sont plus des oracles prononcés par Jérémie, mais c'est une histoire qu'on raconte à propos de Jérémie. Et l'on pense que, au départ de cette histoire, c'est son secrétaire Baruch qui est là et qui a, puisque c'était lui qui écrivait, qui a raconté cette histoire après coup. Mais probablement pas lui seul. On a déjà revu son texte. Et la troisième partie, à partir du chapitre 46, vous avez alors des oracles contre les nations. Nous reviendrons là-dessus. Donc trois grosses parties, des oracles, une partie de biographie, et puis des oracles sur les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça que, en gros, le livre de Jérémie a été constitué. Et donc il faut bien introduire le personnage de Baruch. Maintenant, quand on parle de Jérémie, on parle toujours des lamentations de Jérémie. Peut-être bien qu'il s'est lamenté, probablement, hein, il y a quelques lamentations, mais ce n'est pas lui qui a composé ce qu'on appelle le livre des lamentations. Certains pensent que c'est Baruch, c'est possible, mais c'est un autre langage. Et donc cette lamentation de Jérémie, c'est vraiment une œuvre composée pendant l'exil. Pendant l'exil, donc plus tard, de l'époque que nous sommes ici. Pendant l'exil, après 589. Mais qui indique bien la situation des gens pendant l'exil, qui se lamentaient sur le sort de Juda, de Jérusalem, du temple, de la destruction. Voilà, nous avons un certain nombre de clés. Il ne faut pas aller plus loin. Regardons maintenant comment le livre commence. Ici, il commence par une vocation. Nous avons vu que chez Isaïe, il ne commençait pas par la vocation. Il commençait d'abord par quelques oracles contre la situation sociopolitique, et puis il se légitimait en quelque sorte en disant, mais si je parle comme ça, c'est parce que j'ai été appelé par Dieu. Chapitre 6, vocation d'Isaïe. Ézéchiel, au contraire, nous avons vu cela aussi, Ézéchiel, il manifestait tout de suite sa vocation. Il avait reçu un livre à manger, et il mangeait le livre. Et puis il avait vu, une sorte de je ne sais pas comment il faut dire, mais de bulldozer, tournant avec des rayons, un char. Le char de la présence divine. Présence divine et livre. Il faut passer de la présence divine à l'oracle écrit. Isaïe voyait le saint de Dieu présent dans le sanctuaire, sa traîne remplissant le sanctuaire. Vous voyez, chacun des prophètes a sa vision personnel de Dieu. Ça, c'est aussi important. Et toutes ces visions sont importantes. Parce que Dieu ne peut pas le décrire de façon absolue. Eh bien, Jérémie aussi va avoir tout de suite sa manière de présenter les choses. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Avant de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète de nation, je t'ai établi. Qui parle? Qui parle? La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. C'est le prophète qui dit comment Dieu s'adresse à lui. Hein? Dieu dit, avant de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Donc, nous préexistons à notre naissance et Dieu nous connaît avant cela. Bon, vous connaissez tous le psaume. Seigneur, tu me sondes, tu me connais. Que je me lève ou m'assois, tu le sais, tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens, mes voix te sont toutes familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici, Seigneur, tu la sais tout entière. Derrière et devant, tu m'en sers, tu as mis sur moi ta main, prodige de savoir qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de mystères, prodige que je suis, prodige que tes œuvres. Dit autrement, je suis enfant de Dieu avant d'être l'enfant de ma mère. Je suis d'abord enfant de Dieu. Donc ma première relation est avec Dieu avant d'être une relation à mes parents. Donc c'est déjà tout ce thème que vous retrouvez constamment dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, qui est ici déjà affirmé. Avant de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Connaître, connaître. Pas seulement je t'ai connu, j'ai vu ton nom sur une liste. Non? Connaître, c'est j'ai avec toi une communion très profonde. Une communion semblable à celle du mari et de sa femme. Avant que tu ne sois sorti du sein, je t'ai consacré, je t'ai mis à part. Je t'ai pris à moi. Tu es mon enfant. Comme prophète de nation, je t'ai établi. Et c'est moi qui t'ai donné ta destinée, prophète des nations. Quand on dit prophète des nations, c'est une qualité universelle. Prophète des nations, je t'ai établi. Toi, petit prophète de Juda, toi, tu n'étais encore qu'un embryon dans le sein de ta maman, et j'avais déjà des vues sur toi. Prophète des nations, je t'ai établi. Il devait avoir, à ce moment-là, vers les 18-19 ans, peut-être. Et je dis, ah Seigneur, vois, je ne sais pas porter la parole, je suis un enfant. Nahar. Nahar, enfant, adolescent, hein. Nahar, un garçon, un jeune. Ah, je dis, Seigneur, je ne sais pas porter la parole, je suis un enfant. C'est normal. Quand le Seigneur nous invite à quelque chose, quand on lui dit, moi je t'ai... J'étais déjà mis sur mes listes pour ceci. On dit non. Moïse, c'est pareil, hein. Je ne sais pas parler. Isaïe, idem. Je suis impur au milieu d'un peuple impur. Mais le Seigneur répondit, ne dis pas, je suis un enfant. Mais va vers tous ceux à qui je t'enverrai. Et tout ce que je t'ordonnerai, dis-le. Pas de réplique là. N'aie aucune frayeur devant eux, car je suis avec toi pour te protéger, oracle du Seigneur. Je suis avec toi. Voilà, ça c'est l'entrée en matière. Nous entrons tout de suite dans un dialogue entre Dieu et le prophète. Ce n'est pas pour rien. Si nous entrons comme ça en commençant le livre, c'est que nous vivons aussi ce dialogue avec le Seigneur. Je suis rien. Ah, oui, mais va faire ce que tu dis. Coup de sifflet.